Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le moins que l'on puisse dire est que lorsque l'on vit à Rome, en l'occurrence au Vatican, comme le pape François afflue en ce lieu le meilleur comme le pire, commençons par le meilleur pour tordre le cou à notre pessimisme bien français, la prochaine canonisation de Charles de Foucault, une vie qui finira donc par être présentée place Saint-Pierre de Rome comme une lumière pour le monde, où le marathon de prières en ce mois de mai demandé par le pape François pour la fin de la pandémie, 1,3 milliard de priants potentiels. Le pire, lui, hélas, n'est jamais très loin, les récents naufrages en Méditerranée, le moment de la honte selon les mots du pape, ou le terrible anniversaire du génocide arménien, cap sur Rome ou bas le cœur du monde. L'actualité de l'Église universelle, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre rendez-vous mensuel pour avoir des nouvelles de l'Église dans le monde et du pape François. Autour du plateau, Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Xavier Darod, qui est prêtre et vice-recteur du Sanctuaire de Lourdes et qui nous rejoindra un petit peu plus tard. On va commencer avec vous, Lou Bémond de Senneville. On va commencer par ce marathon de prières. Commençons par une bonne nouvelle d'une certaine manière. Donc lancé par le pape François, on pouvait lire ça donc dans vos colonnes, c'était un article donc du 23 avril dernier, à l'occasion du mois de mai, mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie, le pape François a lancé ce marathon qui va passer par 30 sanctuaires dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, donc c'est une mobilisation, un appel à la mobilisation, à la prière, pour prier pour la fin de cette pandémie que nous subissons depuis plus d'un an. Ce marathon de prière est ouvert à Rome, a été ouvert à Rome le 1er mai par le pape François. Il sera aussi clos à Rome dans les jardins du Vatican par le pape François à la fin du mois. Et entre ces deux dates, eh bien, chaque sanctuaire dans le monde, une trentaine de sanctuaires dans le monde sont invités à prier tour à tour au fil des jours pour la fin de la pandémie. Donc à la fois en Italie, en France avec le sanctuaire de Lourdes, en Birmanie, en Algérie, au Japon, aux États-Unis, enfin voilà, dans le monde entier. Donc voilà, c'est vraiment un appel à une grande mobilisation spirituelle pour la fin de cette pandémie.
Et on peut aussi dire que les fidèles sont invités eux-mêmes, en fait, à réciter, c'est ça, tous les soirs, un chapelet ?
Voilà, exactement. En fait, le pape appelle ceux qui le veulent à réciter un chapelet. Ce chapelet, il est à la fois récité par chacun et en même temps, il peut être récité dans ces sanctuaires par les fidèles. Un certain nombre de radios, de télévisions proposent de suivre ce marathon de prière. Je pense notamment à la télévision KTO qui propose chaque soir de suivre, il me semble que c'est à 18h, le marathon de prière dans un sanctuaire différent tous les jours.
Voilà, ce marathon de prière donc pour mettre fin à cette pandémie lancée par le pape François. Marathon de prière, c'est une expression elle du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est l'occasion de donner un peu des titres comme ça pour faire grandir notre culture générale du Vatican, on va dire. Et on peut dire aussi que c'est le 19 mai que ce marathon s'arrêtera d'une certaine manière dans la cité mariale des Pyrénées, qui est Lourdes. Vous vouliez ensuite attirer notre attention sur deux actualités qui disent entre guillemets, le ménage ou le tour de vis, je ne sais pas l'expression que vous utiliserez pour du pape François au Vatican. Désormais, les cardinaux pourront être jugés comme d'autres, sont des justiciables comme les autres, et les responsables de la curie devront bientôt donc remplir une déclaration d'intérêt. Et à chaque fois, dans vos articles, on peut lire le terme « révolution ».
Oui, alors en fait, pour vous dire un peu de quoi il s'agit, c'est deux décrets, hein, on appelle ça des motu proprio, mais ce sont des décrets qui ont été adoptés jeudi et vendredi dernier par le pape François, et qui consistent, l'un, effectivement, à demander aux cardinaux et aux responsables de la curie, même plus généralement, de faire preuve d'une plus grande transparence financière, donc notamment d'assurer qu'ils n'ont jamais été condamnés, notamment d'assurer qu'ils ne possèdent aucune participation financière dans des entreprises qui sont dans des paradis fiscaux. L'autre motu proprio, c'est un motu proprio qui permet aux cardinaux et aux évêques de pouvoir être jugés devant le tribunal du Vatican par des laïcs, alors qu'avant ils ne pouvaient être jugés que par d'autres cardinaux ou par le pape lui-même. Effectivement, les deux cas...
Pardon, avant que vous nous parliez peut-être du mot révolution, à propos de la corruption, vous dites aussi que le Vatican, à vous lire, toujours dans le journal La Croix évidemment, que la corruption concerne aussi une forme de corruption grise. Qu'est-ce que c'est que cette corruption grise ?
Il y a une forme de corruption grise, effectivement, dans tous les appareils de pouvoir, qui consiste à vouloir attirer des faveurs en échange de petits cadeaux, en échange de faveurs, en échange de choses comme ça. Et ce qu'on appelle une corruption grise, c'est une corruption qui n'est pas massive. Vous voyez, si Emmanuel, je vous verse 10 000 euros en liquide dans une mallette, c'est une tentative de corruption assez claire. Mais il peut y avoir une corruption grise qui peut être de vous offrir des choses, de vous faire profiter de l'un ou l'autre avantage auquel moi je pourrais avoir accès, de manière à ce que vous puissiez après à votre tour prendre des décisions qui me sont favorables. Et effectivement, l'interdiction de cette corruption grise, elle passe au Vatican par l'interdiction pour tous les membres de la Curie, donc pas seulement les cardinaux, mais tous ceux qui travaillent au Vatican, de recevoir des cadeaux de plus de 40 euros. C'est une mesure qui existe dans d'autres administrations, en France, aux États-Unis, à Bruxelles, à Londres, en Italie. Voilà, et qui a pour but de rendre un appareil de pouvoir moins perméable aux pressions, y compris aux pressions financières.
Alors vous dites dans les deux cas, donc, vous utilisez le terme révolution, et puis vous citez un certain nombre de personnes qui parfois parlent anonymement, on peut en lire un dans vos colonnes, on vit les derniers moments d'un monde clos sur lui-même. Révolution, le mot est justifié ?
Je pense qu'on peut parler de révolution, c'est une révolution culturelle en fait. Une révolution d'une part parce que pendant longtemps, jusqu'ici, les cardinaux ont été considérés comme des hommes à part sur le plan judiciaire et ils ne le sont plus aujourd'hui. Alors évidemment, ils sont des hommes à part dans leur titre, dans leur fonction et dans leur rôle aussi qu'ils ont dans l'Église, hein, de conseiller le pape et puis évidemment de pouvoir élire son successeur. Mais ils ne sont plus des hommes à part vis-à-vis du tribunal, des décisions qu'ils pourraient prendre et qui seraient erronées, fausses, frauduleuses. Donc effectivement, là, il y a une révolution. Le deuxième point un peu révolutionnaire, c'est la volonté du pape de demander au personnel de la Curie de ne plus se faire offrir des cadeaux, de ne plus se faire entretenir, si on peut dire de manière un peu familière, ce qui a été longtemps le cas ici à Rome. C'était la tradition d'offrir largement des choses aux gens qui travaillaient au Vatican. Et voilà, donc ça traduit sans doute un changement de mentalité.
À ce sujet aussi, on peut vous lire dans vos colonnes que Moneval, qui est donc cet organisme du Conseil de l'Europe qui est chargé de vérifier, on va dire, que les comptes de certaines organisations ou États sont propres, pour faire court, hein. Moneval, vous nous en aviez parlé. Moneval devra rendre son rapport à la mi-juin après être passé au Vatican. Deux autres choses encore en nouvelles en direct de Rome avec vous. À l'occasion donc du sommet sur le climat, du récent sommet sur le climat, à l'occasion de la Journée de la Terre, c'était le 22 avril dernier, le pape François a adressé un message, il est temps d'agir, nous sommes à la limite, nous n'avons plus le temps d'attendre. Est-ce que vous pouvez faire à nouveau écho à ces déclarations du pape François ?
Oui, effectivement, c'est à l'occasion de la Journée de la Terre. Alors, vous savez, peut-être vous en avez entendu parler, Joe Biden, le nouveau président américain, avait organisé un sommet pour le climat. Et à côté de ça, il y a un certain nombre d'organisations, de militants, d'organisations écologistes notamment, qui avaient organisé eux-mêmes une réunion, tout cela étant évidemment organisé en ligne. Il se trouve que le pape François a participé aux deux réunions, à la fois celle des chefs d'État et à la fois celle des militants, des gens qui sont engagés sur le terrain. Et c'est à cette occasion-là que le pape François a mis en garde contre ce qu'il a appelé l'autodestruction de la planète, si en particulier nous ne sortons pas meilleurs de la crise. C'est-à-dire que François est persuadé que la crise écologique et sanitaire que nous traversons sont intimement liées et qu'il y a deux manières d'en sortir, soit nous en sortons meilleurs, soit nous en sortons pire, auquel cas nous allons vers une forme d'autodestruction de notre planète.
Voilà, notre préoccupation est de faire en sorte que l'environnement soit plus propre, plus pur et préservé, de prendre soin de la nature pour qu'elle prenne soin de nous, a aussi déclaré le pape François. Dernière nouvelle, c'est régulièrement sont annoncées des canonisations. Il y a deux canonisations à venir qui concerneraient la France. La première peut-être pour un homme moins connu, César de Bus, homme de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, fondateur de la congrégation des Pères de la Doctrine Chrétienne. Et donc Charles de Foucault, qui devrait être bientôt canonisé puisqu'il a été reconnu un miracle réalisé par l'intercession de ce futur potentiellement saint. C'est ce qu'a annoncé le Vatican récemment.
Voilà, absolument. Charles de Foucault et César de Bus, que vous avez cités, vont être proclamés saints. cela a été confirmé à l'occasion d'une histoire qui a été célébré ce lundi, donc il y a quelques jours, et au cours duquel, normalement, le pape aurait dû annoncer une date de canonisation pour Charles de Foucault. Il ne l'a pas fait en raison de la pandémie, parce que c'est un peu difficile en ce moment de pouvoir prévoir une cérémonie au cours de laquelle plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient réunies place Saint-Pierre. Mais en tout cas, effectivement, c'est une certitude. Saint Charles de Foucault pourra être considéré comme saint dans quelques semaines, quelques mois, et donc être considéré comme un exemple pour tous les fidèles et pour tous ceux qui veulent bien considérer Charles de Foucault comme un saint.
Peut-être pour finir, Loubet-Mont de Senneville, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi ressemble à une canonisation place Saint-Pierre de Rome? Tout le monde n'en est pas familier. Il y a un grand portrait de l'homme ou de la femme qui va être canonisé, et puis il y a un voile qui est levé, c'est ça, un moment pendant une cérémonie religieuse, donc on a un visage qui est donné à voir, à contempler presque.
Voilà, exactement. Alors il y a un peu deux types de canonisation place Saint-Pierre. Il y a des canonisations si je puis dire personne par personne, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est canonisée, et puis il y a des canonisations de plusieurs personnes. C'est vraisemblablement ce qui va se passer avec Charles de Foucault, qui sera sans doute canonisé avec six autres personnes. Et donc effectivement, il y a leurs portraits, en tout cas dans les dernières canonisations, qui sont affichés sur la place Saint-Pierre. Et effectivement, au moment de la canonisation, il y a une sorte de voile qui est levé sur ces portraits, sur ces visages. Et c'est une canonisation qui a lieu place Saint-Pierre jusqu'alors, c'est-à-dire dans le monde d'avant, si on peut dire, avant le Covid, une place Saint-Pierre qui réunissait plusieurs dizaines de milliers de personnes avec des écrans géants et au cours d'une cérémonie présidée par le pape lui-même, souvent en présence de délégations diplomatiques venant des pays des saints qui sont célébrés. Donc voilà, c'est un moment très important de la vie de l'Église, ces canonisations. Et donc on espère pouvoir les vivre bientôt à l'automne, peut-être cet hiver.
Voilà, avec cette grande place Saint-Pierre de Rome en forme de deux grands bras qui, on l'espère, pourra bientôt à nouveau embrasser les fidèles. Merci beaucoup, Loubet-Mont de Senneville, d'avoir été fidèle au rendez-vous. On va faire une rapide pause musicale et puis on va retrouver Xavier Darode qu'on a entre-temps réussi à joindre pour évoquer de multiples actualités. On restera un petit peu sur Rome avec un centre de protection des mineurs qui fait parler un petit peu de lui. On parlera des drames en Méditerranée et des réactions du pape et du Saint-Siège et autres projets du pape François de voyage notamment au Liban.
Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, votre rendez-vous mensuel pour avoir des nouvelles du pape François et d'une partie de l'Église dans le monde. Et nous sommes avec Lou Bémon de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, et Xavier Darode, prêtre et vice-recteur du Sanctuaire de Lourdes, qu'on a réussi à joindre. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
En duplex depuis nos studios de Lourdes, je le précise. Vous vouliez rester un tout petit peu sur Rome, peut-être pour prolonger ce que Lou Bémon a dit de la publication de ces deux décrets qui, je le rappelle, donc signent le fait que les cardinaux sont désormais des justiciables comme les autres et qu'il doit y avoir des déclarations de revenus, enfin de patrimoine, donc pour tous les membres de la curie. Vous vouliez vous arrêter aussi sur un centre de protection des mineurs, alors j'ai découvert grâce à vous, qui existe à Rome au sein de l'université grégorienne et qui va devenir une faculté, et c'est un événement, on va dire, qui en dit long.
Tout à fait, ce sont un ensemble de mesures, si vous voulez, qui montrent justement la résolution du pape à encourager la réforme même de l'Église. Alors, il y touche par différents moyens, par étapes aussi. On voit que la multiplication, en fait, de ces documents qui sortent, qui sont des motu proprio. Il ne montre pas justement que, en fait, les précédents n'ont pas été entendus. C'est que à chaque fois, ils vont une étape un peu plus loin. Et je crois que le signal qui est donné, par exemple, sur la question de la corruption ou le fait que les évêques et cardinaux puissent désormais être jugés par des magistrats laïcs, c'est que on se rend bien compte que ces juridictions d'exception que nous avions autrefois dans notre droit n'ont plus tellement cours ou n'ont plus tellement de raison d'être, justement parce que les procédures deviennent de plus en plus claires et précises. Donc, on le voit, nous, dans la vie courante, hein. Par exemple, les cours militaires, la justice militaire est de moins en moins favorisée. Les cours des avocats aussi spécifiques à la justice sont remis en cause. Donc on a une volonté, je crois, au niveau mondial de remettre en cause ces justices d'exception. Et là, le Saint-Siège, lui aussi, est en train de rentrer là-dedans.
Alors, le centre de protection des mineurs de Rome, qu'est-ce que c'est que ce centre? Pourquoi vous vouliez attirer notre attention sur ce centre?
C'est un centre qui est tout à fait essentiel dans l'Église. Le père Hans Zollner, qui était vice-recteur de l'Université pontificale grégorienne, a désormais, et puis avait été également président de l'Institut de psychologie à la grégorienne, a fondé cet institut de protection des mineurs. Et depuis des années, donc, remplit ce rôle de conseiller et de mettre à disposition des ressources, des formations pour les différents diocèses et pour l'Église universelle sur la question de la protection des mineurs. C'est donc notamment le père Hans Zollner est intervenu à plusieurs reprises auprès de la Conférence des évêques de France. Il est intervenu notamment pour préciser les normes qui devaient désormais s'appliquer sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables adultes, parce que c'est ça qui est également important.
Xavier Darode, pardon, je vous coupe, mais en fait, c'est un lieu où peuvent venir se former, on va dire, des personnes en responsabilité pastorale et ceux du monde entier, c'est ça?
Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Il y a plusieurs dimensions dans ce centre. Il y a à la fois un rôle, si vous voulez, de formation, comme vous le soulignez. C'est le fait qu'on le confirme comme faculté qui devient important parce que désormais, il va pouvoir délivrer des diplômes universitaires comme une licence, un master et un doctorat. Mais également, il constitue un centre de ressources et de formation et d'information, mais également un centre de recherche. Une faculté, c'est également un centre de recherche. Donc, elle va devenir un lieu de proposition dans l'Église pour l'établissement de nouvelles normes, formation, par exemple, dans les séminaires, de préparation de tous les futurs candidats au sacerdoce pour vraiment que cette question des abus, au sens large, soit prise en compte. Donc, ce sont les abus sexuelle. Évidemment, c'est comme cela que la question a émergé, mais ce sont également les abus de pouvoir, les abus à caractère économique, détournement d'argent, ou également les abus spirituels. Nous ne voulons pas, dans notre Église, de grands chamans ou de gens qui s'approprient, en fait, la direction spirituelle de telle ou telle personne. Donc, je crois que c'est intéressant. Parce que ça rejoint également une autre initiative qui est la création donc, d'un cours de jurisprudence dans la faculté de droit canonique, également à la Grégorienne, sur cette question des abus. Donc on voit qu'il y a une volonté générale d'avancer sur la protection même des personnes et de leurs droits.
Eh ben, c'était important à souligner parce qu'avec tout ce qu'on a pu lire ou entendre, évidemment, on a envie d'être tenu au courant de ce type d'actualité. Alors, on passe à toute autre chose, sujet grave s'il en est lui aussi, c'est donc les morts en mer de Méditerranée. Les naufrages donc continuent de se multiplier. 453 migrants auraient péri depuis le 1er janvier 2021 en Méditerranée. Il y a eu récemment donc cette embarcation de 130 passagers, 130 migrants qui sont morts en mer. L'Ocean Viking, donc, qui a volé à son secours, est arrivé trop tard. Et le pape François a déclaré, entre autres, la chose suivante. « Je vous avoue que je suis très attristé par la tragédie qui s'est à nouveau déroulée ces derniers jours en Méditerranée. » Il déclarait ça il y a peu, je ne retrouve pas la date. 130 migrants...
Juste après la prière du Regina Celi, ouais. il y a 5 jours à peine.
Ouais, 130 migrants sont morts en mer, ce sont des personnes, ce sont des vies humaines qui pendant 2 jours entiers ont imploré de l'aide en vain. Une aide qui n'est pas venue, frères et sœurs, interrogeons-nous tous sur cette énième tragédie, a dit le pape François, ajoutant « c'est le moment de la honte ». Qu'est-ce que ça attire de votre côté comme commentaire, peut-être en mise en perspective des propos du pape François ?
Je crois que c'est un rappel très fort de la dignité humaine. Il commence son intervention en disant « ce sont des personnes ». Ce ne sont pas d'abord des migrants, ce sont d'abord des personnes qui sont mortes et qui ont appelé à l'aide. Je crois qu'il y a ce rappel très fort, justement, à la dignité humaine, que la pandémie même ne peut nous faire oublier. Cette réalité, effectivement, des migrants, c'est tarie en partie à cause de cette pandémie, mais le drame se déroule encore sous nos yeux. Et donc, lorsque le pape dit « j'ai honte », c'est à la fois parce qu'il porte cette responsabilité comme souverain pontife, comme conscience qui est là pour éveiller aussi la conscience même des dirigeants, et de voir que malgré ses appels, rien n'a été véritablement entrepris, notamment sur ce cas-là.
Est-ce qu'on peut dire rien, Xavier Darrode ? Est-ce que c'est pas aller trop loin ? On sait qu'en ce moment, l'Europe est en train de réfléchir à un nouveau régime commun d'asile. Il y a quand même des migrants qui sont accueillis, il y a quand même des secours qui sont portés en mer Méditerranée.
Merci de me corriger parce qu'effectivement des choses ont été faites, mais pour le pape, clairement cela va trop lentement. Et puis surtout, il est vrai que si vous voulez, derrière ce que vous dites, c'est l'action même publique, mais ce que le pape dénonce aussi, c'est surtout toute cette activité des trafics, des trafiquants humains qui proposent ces traversées et qui les menaient de façon tout à fait indécente. Donc oui, des choses sont faites, et j'aurais pas dû m'exprimer ainsi, aussi fortement, mais le pape est conscient que c'est encore insuffisant et que il faut en fait agir à la source même de ces migrations en luttant contre les trafics et en proposant un développement humain qui permette à ces populations de rester dans leur propre pays.
Voilà, c'est dit. On aura l'occasion, hélas, d'y revenir probablement. On espère pour annoncer autre chose. Autre actualité, c'est une actualité, on reste un peu dans les actualités graves, hein, mais c'est ce que je disais en introduction de l'émission. De fait, quand on est à Rome, vous arrive quand même le pire et le meilleur. Donc des sujets graves, il y en a qui sont portés à la connaissance de l'Église universelle. C'est donc l'hommage aux martyrs arméniens. Il y avait donc récemment l'anniversaire, difficile de prononcer ces mots, anniversaire du génocide arménien. Et donc le cardinal Koch, donc, qui est président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a présidé une célébration. Je vous laisse revenir dessus.
Oui, cette question est extrêmement sensible, si vous voulez, pour le Saint-Siège. On se rend bien compte qu'elle participe, si vous voulez, d'une approche diplomatique beaucoup plus large qui s'est passée, si vous voulez, entre la reconnaissance, par exemple, des États-Unis de ce martyr. Le cardinal Cor a souhaité justement exprimer la compassion du Saint-Siège et l'attention, si vous voulez, du Saint-Père pour ce martyr des Arméniens, la persécution dont ils ont été les victimes.
Alors ça, c'est les actualités, vous en avez cité. Donc Joe Biden donc, a prononcé le mot de génocide arménien. Donc c'est une reconnaissance, on va dire, et un acte diplomatique fort. Peut-être que ça vaut le coup de revenir dessus, de le mettre en perspective, et puis aussi de nous redire, en fait, qu'est-ce que ça signifie, en fait, quand le Saint-Siège parle de martyrs chrétiens à propos de tous ces morts du génocide arménien, faisant écho, si j'ai bien compris, donc à une canonisation collective de l'ensemble des martyrs du génocide qui avait été le fait donc de l'Église apostolique arménienne qui n'est pas en communion avec Rome et qui rassemble la grande majorité des Arméniens de l'État arménien actuel. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective un peu ces deux déclarations ou décisions?
Bien sûr, cette annonce qui a été faite par le cardinal Cor, en fait, montre que il y a une volonté de la part du Saint-Siège de montrer que ces martyrs ont donné quand même leur vie au nom même de la foi. C'est un appel donc radical. Ils vont être canonisés. Donc c'est un appel justement qui est lancé à l'ensemble de l'Église universelle pour assurer le témoignage même de la foi. Ce génocide n'a pas été perpétré pour des raisons ethniques. Il a été d'abord perpétré, c'est ce que l'on sous-entend dans cette déclaration du Saint-Siège, pour des raisons religieuses. Donc c'est intéressant de voir cela, parce que c'est le cardinal Cor qui est donc responsable du dialogue interreligieux qui s'est prononcé, et non pas, comme il en est d'usage, souvent la congrégation pour le culte des saints, qui normalement intervient sur ces questions de canonisation. On voit bien donc qu'à travers cela, il y a une volonté, si vous voulez, de favoriser ce dialogue entre les religions, mais c'est une invitation à proclamer sa foi. Ça me semble tout à fait intéressant parce que le pape François, voyez-vous, insiste beaucoup sur ce dialogue des cultures, ce dialogue des religions, et on l'a vu notamment à travers son voyage en Irak et puis toutes les relations qu'il a pu établir avec les autorités égyptiennes. On voit qu'il ne souhaite pas entrer dans un conflit de civilisation, un conflit de culture, un conflit de religion, mais néanmoins, il y a la volonté même qui s'exprime à travers cette invitation à la canonisation de ces martyrs arméniens, de reconnaître qu'il faut annoncer la foi chrétienne, y compris dans ce contexte religieux incertain. C'est donc très significatif pour moi.
Si on reste sur les actualités du pape François, il y en a une dernière qu'on voulait porter à la connaissance des auditeurs, peut-être qu'ils n'en ont pas entendu parler, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale. C'est donc l'annonce du pape François d'un prochain voyage au Liban. Le pape François aurait dit qu'après la formation d'un gouvernement, c'est un tweet donc du 22 avril, il se rendrait au Vatican. Il faut dire donc et redire que le Liban donc traverse une grave crise politique et que Saad Hariri, qui a été en responsabilité déjà, a été nommé Premier ministre et à charge donc de constituer un gouvernement. C'est une surprise, cette promesse de voyage du pape François au Liban?
Pas franchement, parce que d'abord c'est quelque chose qui avait été vraiment anticipé. On en avait déjà eu des signaux très forts lors du voyage de retour dans l'avion en Irak. Et puis je crois qu'il faut bien comprendre aussi l'intérêt du pape François pour le Liban. J'ai repris les interventions un peu internationales du pape François sur le Liban. En 2020, j'en ai compté plus d'une dizaine d'interventions. et notamment une journée de prière et de jeûne spéciale le 4 septembre. Donc je crois qu'aucun pays n'a reçu autant d'attention que le Liban dans le monde. Le pape François rêve justement d'une fraternité. Il en avait parlé du reste dans son adresse au corps diplomatique le 9 janvier dernier.
Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être de ce que représente le Liban, on va dire en général, peut-être, et pour le Saint-Siège? Le pape François, quand il avait été donc au Liban, avait eu cette expression qui maintenant est devenue relativement connue. En 1997, il avait dit que le Liban est un pays message.
Oui, c'est vraiment ce qui est le message profond qui émerge des discours du pape. Le monde a besoin du Liban. Je me souviens notamment de ce qu'a dit justement le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège et le bras droit du pape, qui juste après l'explosion à Beyrouth avait dit le Liban a besoin du Liban. Le Liban a besoin du monde, pardon, mais le monde a besoin de l'expérience unique du Liban. Parce que, justement, il y a un respect, il y a une cohabitation, un pluralisme que le pape, justement, a souligné aussi dans son message de Noël 2020, qui était consacré, justement, spécialement à la situation au Liban. Donc, il y a une volonté, je crois, de montrer que la cohabitation est possible dans un Moyen-Orient pluriel, tolérant et divers, où la présence chrétienne peut offrir sa contribution et il ne faut pas que le christianisme soit réduit à une minorité. Et puis, dernier point, je crois que ce qui est tout à fait spécifique sur la situation même au Liban, c'est quand même la présence considérable des réfugiés, notamment originaires d'Irak et de Syrie.
Voilà. Le pape qui a appelé la responsabilité de toute la classe politique à s'engager de toute urgence au bénéfice de la nation. Pardon, vous vouliez ajouter une dernière chose ?
Oui, je crois qu'il y a un enseignement aussi à retenir de cette rencontre du pape avec M. Hariri.
Oui, parce qu'il faut le dire, Saad Hariri donc, est allé rencontrer le pape François, j'ai oublié de le dire. Hein. C'est suite à ça qu'il a été fait cette annonce.
C'est parce que cette visite qui était une rencontre privée, donc qui n'était pas inscrite à l'agenda même du Saint-Père, a permis justement cet échange. Et donc en disant la volonté même du pape de venir là-bas, mais il y a eu une semaine plus tard également une lettre qui a été écrite au président libanais, Michel Aoun. Donc on voit bien que le Saint-Siège, et on sait que l'opposition qui ne permet pas la nomination justement d'un nouveau gouvernement se focalise entre cette lutte entre Saad et Hariri et le président Michel Aoun. Et donc on voit bien que si le pape reçoit Saad Hariri, néanmoins, en écrivant une lettre spécifique au président Aoun, il tient compte également de cette réalité. Donc la diplomatie vaticane, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, essaye de rétablir l'équilibre entre les deux camps opposés et essaye de trouver une voie médiane, une médiation sur laquelle toutes les chancelleries, notamment européenne ou occidentale, souhaite que cette médiation puisse aboutir. On a vu des interventions notamment de la diplomatie américaine, on a vu des démarches de la diplomatie française, et lorsque Saad Hariri est venu au Saint-Siège, il a également rencontré le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères italienne. Donc on se rend bien compte qu'il y a une pression diplomatique tout à fait considérable pour que ce voyage au Liban soit un succès et permette de sauver ce pays.
Eh ben, c'est entendu, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de différents sujets, entre autres la liberté religieuse à travers le monde, puisque la Fondation L'aide à l'Église en détresse a publié son rapport annuel sur la liberté religieuse. Et ce sera l'occasion aussi de parler un petit peu de l'Église d'Inde qui essaye d'être aux côtés des Indiens frappés de plein fouet par la pandémie.
Thank you.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Était avec nous au début d'émission Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome. Et est avec nous Xavier Darod, qui est prêtre et vice-recteur du sanctuaire de Lourdes. Monseigneur Xavier Darod, coup de zoom ou de focus ou d'arrêt donc sur le rapport de l'aide à l'Église en détresse. C'est un rapport souvent attendu qui permet de mesurer, en tout cas en France, un petit peu l'état de la persécution des chrétiens ou de la liberté religieuse. Pour les chrétiens, on va dire que les nouvelles ne sont pas bonnes, puisque ce rapport fait état donc de persécution dans 26 pays et de discrimination dans 36, soit 2/3 de la population mondiale qui serait ainsi concernée, et l'AED qui explique que ça ne s'améliore pas.
Oui, ces types de rapports, on les entend d'année en année. Et donc, on pourrait presque s'y habituer, d'autant plus que nous avons parfois le sentiment que ce sont des questions qui sont lointaines. Mais ce sont des questions tout à fait immédiates.
C'est-à-dire, par exemple,
y compris pour nos pays occidentaux. Ben, l'une des, par exemple, nos auditeurs vont comprendre très simplement. Par exemple, ne serait-ce que pour l'Irlande, actuellement, cela fait depuis le mois de septembre que aucune messe ne peut être célébrée en public au nom d'une protection sanitaire, alors que ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays européens. On voit que là, il y a une réaction excessive des gouvernements, peut-être aussi en Belgique, de la même façon. Donc on voit que ce problème de la liberté religieuse qui se pose dans le monde, progressivement est également en train d'arriver dans nos pays, et y compris à travers la discussion qui peut se faire jour actuellement au Parlement. Sur la question religieuse, justement. Alors, ce rapport qui parle plutôt de pays lointains, en fait, nous touche assez directement. C'est assez considérable, comme vous le soulignez, 67% de la population mondiale, c'est quand même 5,2 milliards de personnes souffrent, ou vivent, plus exactement, vivent dans des pays où ont lieu de graves violations de la liberté religieuse. C'est un pays sur trois. Donc c'est tout à fait considérable, et cela est le fait de mouvements de fond assez divers, hein, qui vont de problèmes religieux, de confrontations religieuses, mais également de normes juridiques, de protection d'État, alors on pense par exemple sur les questions... Oui.
Dans un article de Vatican News, il y avait trois causes principales qui étaient citées: le terrorisme islamiste, les conséquences de la pandémie du Covid-19, et puis la montée de suprématisme ethno-religieux populiste. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous arrêter sur le troisième, parce que les deux premiers, à la limite, on voit de quoi ça parle. Suprématisme ethno-religieux populiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Oui, ben c'est par exemple pour des pays que je connais, hein, en Inde ou au Sri Lanka, par exemple, on voit cette montée du confessionnalisme nationaliste, si vous voulez, dans des pays à forte majorité bouddhiste ou hindou, par exemple, où on voit dans certains États, notamment du nord de l'Inde, par exemple, le fait que les minorités chrétiennes, religieuses, soient considérées comme des citoyens de seconde classe. Donc, on leur fait vivre ce que l'on appelle aussi en terre d'islam la dhimmitude, c'est-à-dire la privation d'un certain nombre de droits parce que justement ils sont chrétiens et parce qu'ils ne sont pas bouddhistes ou hindous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit monter très fortement. Et puis, ce n'est pas simplement la privation même de ces droits, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'exactions sont commises contre ces minorités religieuses parce qu'on les accuse dès lors de tous les maux. Ben, l'un des exemples les plus manifestes, c'est que, par exemple, en Inde, là aussi,
on les a accusés d'être...
On a pu accuser dans... on a d'être des vecteurs ou à l'origine même de la pandémie de Covid.
La pandémie de Covid. Je vous propose qu'on reste sur l'Inde, parce qu'en Inde, on le sait, parce qu'on le lit dans la presse, donc l'épidémie de Covid donc, reprend durement. Il y a de l'aide internationale qui arrive. 40 pays se sont mobilisés. Un avion français, un avion cargo a atterri récemment à New Delhi, apportant 28 tonnes de matériel, de quoi semble-t-il faire tourner en oxygène un hôpital et 250 lits. L'Église catholique, évidemment au plus près de la population, mais aussi, on va dire, désigne un peu l'ennemi ou les responsables, disant que l'Inde, c'est un article qu'on pouvait retrouver sur Vatican News, après avoir choisi l'enfermement indéfini, mettant en grave danger une population pauvre et qui souvent vit un peu au jour le jour, après commis l'erreur de ne pas accepter des normes de distanciation sociale. Bref, que la machine étatique, et c'est plus que grippé, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire que je pense que sur l'Inde, il faut reprendre un peu le fil des choses. Tout d'un coup, face à la montée même de cette crise, il y a eu un confinement qui a été imposé sans aucun préavis le 25 mars dernier. Il y a eu du coup des millions de travailleurs migrants qui ont été pris dans le piège des grandes villes, où ils viennent souvent travailler plusieurs mois par an. Alors, ils étaient originaires des campagnes, et tous ces ouvriers, ces petits artisans, ces manutentionnaires, tout d'un coup se sont retrouvés bloqués dans les villes, sans emploi, sans soutien, sans ressources, alors que l'ensemble du pays était à l'arrêt. Donc, on les a littéralement parqués, comme du bétail. Ils ont vécu, on le voit, des moments extrêmement traumatisants. Là, il y a eu probablement une inadéquation de la réponse étatique, hein, pour autant que je puisse en juger. Mais il est clair que les instances politiques, administratives, et puis la population générale n'ont pas eu nécessairement les bons comportements à un moment. C'est facile à dire, hein, vu de l'extérieur, mais il est évident que lorsque on a eu tous ces immenses pèlerinages ou ces rassemblements, plusieurs ont baissé la garde, très clairement.
Xavier Darod, est-ce qu'il est coutume que l'Église d'Inde, alors peut-être que c'est vous demander peut-être des informations trop précises, comme ça, prenne la parole et désigne, montre du doigt en fait les responsables? On sait que parfois, en cas de crise politique, en fait, l'Église essaye de suppléer un peu, on va dire, aux autorités compétentes ou de continuer à désigner le bien commun. C'est le cas de l'Église d'Inde, ou est-ce que là, de fait, elle prend des risques?
Alors, elle prend des risques, ça c'est certain. C'est quand même son rôle de conscience. Mais surtout, ce que moi j'admire dans l'engagement même de l'Église, c'est qu'elle prend toute sa part. Je suis frappé quand même de voir combien les instances sanitaires de l'Église, ces hôpitaux, ces cliniques, ces dispensaires, ces écoles, se mettent vraiment au service de cette pandémie. Donc il y a une reconnaissance qui est assez unanime, je crois, en Inde, de la contribution de l'Église catholique et des chrétiens dans le domaine de l'éducation et de la santé. Quand j'entends des évêques en Inde centrale qui demandent à ce que les écoles dont ils ont la gestion soient transformées en centres d'accueil pour des malades parce que les hôpitaux eux-mêmes ne peuvent plus y répondre, qu'ils mettent l'ensemble de leur structure, que la Caritas, si vous voulez, donne des millions et des millions de repas, c'est en tout, d'après ce que m'avait dit un responsable de la Caritas, près de 4 millions d'Indiens qui ont été nourris grâce aux cuisines mises en place par Caritas. Et 10 millions d'entre eux ont reçu des rations alimentaires. Donc il y a un effort considérable de l'Église pour agir au niveau sanitaire, au niveau alimentaire, au niveau de l'information et de la formation sur cette pandémie. Alors certes, les leaders de l'Église dénoncent à temps et à contre-temps ce qui a pu mener à ce désastre, mais l'Église n'est pas simplement dans la dénonciation, elle est beaucoup plus dans l'action. Et je voudrais rendre hommage, un hommage très sincère, à tous ceux qui sont morts justement de leur engagement. Je pense en particulier à beaucoup de religieux, religieuses, prêtres qui ont donné leur vie parce qu'ils se sont mis au service justement des plus pauvres. Et là, l'Église en Inde en sera profondément marquée parce qu'ils se comptent par plusieurs centaines et qui, par la suite, ils vont manquer nécessairement.
Voilà, on aurait pu dire aussi à propos de l'Inde que l'Inde exporte plus de 60 millions de vaccins anti-Covid vers 84 pays. On pouvait lire toujours ça dans Vatican News, alors que les centres de vaccination du pays, eux, connaissent une pénurie de doses, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Mgr Xavier Darrot, d'avoir été fidèle à ce rendez-vous en dépit de votre agenda qu'on imagine plus que chargé. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.